Merci beaucoup pour cette communication riche et j'ouvre une séance de discussion de, je dis 20 minutes, on a pris un peu de retard, mais on reviendra dans la séance générale de questions à la communication d'Alain Renaud. Frédéric.
J'ai du mal avec le vocable guerre de religion. Même dans le cas des fameuses guerres de religion de la réforme, etc., j'ai l'impression qu'on a un problème de philosophe. J'ai l'impression qu'on a conçu la tolérance comme principe philosophique, comme étant une réponse aux guerres de religion, parce qu'on considérait les guerres de religion comme des guerres sur des conceptions de la vie bonne, sur des conceptions de la vérité religieuse, quelle qu'elle soit. Et là, loin de moi l'idée de faire l'apologie du réalisme en relation internationale, il me semble que c'est pas vraiment des conflits de religion, qu'il y a des conflits socio-économiques, etc., et que c'est ce genre de conflit-là sur lequel il y a une couche religieuse, une couche de conception de la vie bonne, vers laquelle on s'en va. C'est-à-dire que le racisme ou l'islamophobie post-11 septembre a certes un contenu religieux, a certes un contenu qui implique des conceptions de la vie bonne, sauf qu'il n'y a pas seulement ça. Il suffit de voir qu'un juif arabe en Israël va subir les mêmes contre-coups du racisme israélien. Ou que souvent, dans la culture populaire occidentale, on va associer le turban sikh à l'islam alors qu'il n'y a aucun lien. Et donc, c'est l'espèce de ce racisme religieux ou cette intolérance religieuse-là n'est qu'un aspect d'un problème qui est beaucoup plus profond, qui est un problème d'inégalité socio-économique, de géopolitique, et que c'est d'essayer de comprendre ce genre de conflit-là, qui, oui, relève de la tolérance, oui, relève de la diversité et des accords entre différentes conceptions de la vie bonne. J'ai l'impression que les philosophes, en effet, on se floue en appelant ces conflits des conflits de religion, des conflits sur la nature de la vie bonne, en ne comprenant pas toutes les implications socio-économiques ou culturelles que ça peut impliquer.
Merci Frédéric.
C'est un commentaire ouvert, mais j'aimerais bien vous entendre.
Oui, je répondais, puis
Non, ce que je veux simplement vous répondre, c'est que je ne donne dans aucune islamophobie. Je constate simplement que certaines dimensions de conflictualité sont en train d'apparaître, soit en interne dans nos sociétés, soit entre des sociétés, par exemple entre les gens qui occupent le nord du Mali, qui est un territoire gigantesque, et les pays environnants, et que les dimensions de conflictualité qui apparaissent sur ces deux terrains, soit en interne, soit au plan global, si vous voulez, ou au plan international, sont des dimensions de conflit ou de conflictualité où les positions qui s'expriment sont connotées religieusement. Alors on peut toujours dire que c'est juste une couche qui vient se superposer, se surajouter à des conflits dont la vérité ultime tient à des inégalités économiques, à des différences de richesse, etc. Mais il reste que le fait que l'expression du conflit soit faite par référence à des discours religieux qui véhiculent des conceptions du bien dures, des conceptions du bien qui plus est très, très substantielles, rend l'échange et rend l'optimisme qui avait pu faire espérer dans une pacification assez aisée dans les années 80-90 fait s'éloigner de façon considérable. Voilà, c'est le simple point que je signale, si vous voulez. Je ne suis pas sûr du tout que si vous dites aux gens qui actuellement sont dans le nord du Mali et grignotent du territoire et contrôlent des populations et font valoir un certain nombre de lois violentes, si vous leur dites que c'est simplement qu'ils sont victimes du capitalisme et que je ne suis pas sûr qu'ils reconnaîtront, si vous voulez, leur position, leur combat ce avec quoi ils comptent s'affronter à d'autres dans ces termes-là. Je pense que ce n'est pas du tout leur problème.
Peter.
Merci. Alors voici la version courte de ma question. Faut-il refaire l'éthique discursive ou est-ce qu'elle est incomplète? Alors je m'explique. L'argument principal que vous me présentez, c'est que dans la manière dans laquelle la Habermas et d'autres ont présenté l'éthique discursive pendant les années optimistes, il y a un préacquis qui n'a pas été discuté parce que justement il a été pris pour acquis, le fait qu'il y a un consensus sur les règles mêmes de cette discussion qui va faire le travail substantiel, comme on peut le dire. Alors maintenant, la question se pose pour moi, est-ce que ça veut dire que tout travail qui a été fait doit être refait parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas, ou est-ce que ça veut dire que nous, comme politiciens politiques, en ce cas, devrons nous reconcentrer sur cette étape préalable et complémenter le travail qui reste utile avec cette partie-là. Ça laisse ouvert la question si peut-être la première partie est très importante, hein, et que l'incomplétude de ce qu'on a aujourd'hui est très significative.
Il y a plusieurs possibilités. Ou bien ça veut dire que les espoirs placés dans les éthiques procédurales, parce que sortons du cas de l'éthique de discussion, que je ne prends comme exemple, mais les espoirs placés dans les éthiques procédurales étaient vains. C'est la première possibilité. C'est-à-dire qu'il faudrait, dans ce cas-là, la perspective, c'est que pour essayer de réintroduire de l'entente là où les procédures pourraient être acceptées par l'ensemble des interlocuteurs susceptibles d'être concernés, supposerait des adhésions que tout le monde ne donne pas, ça veut dire dans ce cas-là qu'il faut revenir en arrière sur le choix des éthiques et des politiques purement procédurales et réintroduire du substantiel. C'est la première possibilité. Ça n'est pas personnellement celle qui me tente le plus, de façon prévisible. Mais je ne vois pas comment, en tout cas, il ne faut pas s'interroger. Vous savez, ce qu'a tenté Habermas, c'est de... J'ai fait allusion à la fin, dans son livre paru en 2008, c'est de dire il faut que les uns et les autres, nous allions chercher dans nos religions, qui sont plurielles dans nos sociétés et dans les différentes sociétés, des manières de concrétiser nos convictions et de les rendre plus, de les schématiser, on dirait en termes techniques, si vous voulez, de transformer nos concepts éthiques en des quasi-chaînes qui nous permettent de nous les représenter et qui permettent aussi aux autres de se les représenter de façon plus parlante, de manière à pouvoir entraîner davantage d'adhésion. Je trouve que je comprends bien pourquoi Habermas tente ça. Je n'y crois pas du tout, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment, en ajoutant à l'éthique de la discussion ou aux éthiques procédurales des contenus normatifs empruntés aux religions du passé, on ne réintroduit pas avec cela ce dont les religions en question étaient solidaires. Donc personnellement, je n'y crois pas du tout. Voilà. Et donc je pense que la question est redoutable.
Merci Laurent.
J'ai l'impression que le rapport, pour une bonne appréhension du rapport entre ces contenus religieux et éthiques de discussion, il faut en tout cas distinguer ce qui se passe au niveau de la procédure des discussions idéales et des discussions réelles. Parce que aux deux niveaux, la religion va venir croiser assez fortement. Au niveau de la discussion idéale, je pense que ça met en évidence une des difficultés, me semble-t-il, dans la théorie de Habermas, qui est une dichotomie trop stricte entre la morale et l'éthique. Et la prétention, son cognitivisme pratique, qui se limite essentiellement au niveau moral, les seules prétentions à la validité pouvant faire l'objet d'un consensus au niveau éthique étant des prétentions à la sincérité. Dès lors, il est mal à l'aise face à des discours qui sont axiologiques, qui relèvent plutôt alors du niveau de l'éthique à travers la religion, mais qui ont une prétention totalisante, parce qu'il n'a pas le même point d'appui universaliste pour les mettre en critique. Alors, une piste serait dès lors de se demander s'il ne devrait pas avoir une lecture plus universalisante aussi des enjeux éthiques. Maintenant, je pense que la question est assez différente au niveau de l'usage qu'il fait de la religion comme source motivationnelle. Là, on est plus du tout de la question de la discussion idéale, quel est le critère de validité de nos jugements, la capacité de faire consensus au terme de cette discussion idéale. Non, on est dans nos discussions réelles. On est face à des communautés, des individus empiriquement. Et là, on ne peut pas présupposer qu'ils sont dans l'attitude discursive qu'on présuppose par contre lorsqu'on réfléchit en situation idéale. Est-ce que le retour, lorsqu'on est dans cette situation, on ne peut pas présupposer cette attitude discursive? Est-ce que là, l'utilisation de récits narratifs, et notamment ces puissants récits narratifs que sont les religions, n'ont pas une source motivationnelle pour juste... Est-ce que finalement, on n'est pas très proche de la position kantienne de la religion dans les simples limites de la raison? Donc, le contenu en tant que tel, en termes de validité, dépend de son adéquation à la raison. Maintenant, en termes de discours narratif, pour de manière éducative, pour l'inscrire dans ce discours de religion, pour parvenir à motiver les gens à finalement avoir les attitudes qui correspondent à ce qui serait validé en discussion idéale, on ne peut pas faire l'économie de la force narrative du discours religieux.
Oui, vous restituez très bien la position de Habermas. Mon objection, c'est la suivante, c'est des ressources motivationnelles pour qui? Qui sont les gens auxquels vous venez de faire allusion? Parce que ce qu'on voudrait, c'est trouver des ressources motivationnelles pour les gens, je reprends votre formule, hein, pour les gens avec lesquels nous n'arrivons pas précisément à pouvoir aisément aujourd'hui présupposer la possibilité de l'entente. Hein? Or, c'est précisément pas avec cela que le fait d'aller puiser dans les trésors de nos religions, en plus, il s'agit des religions... des sociétés occidentales démocratiques. Hein. Habermas prend un exemple qui est l'incarnation du Père dans la figure du Fils. Donc ça va en rien fournir une ressource motivationnelle pour parler avec ceux qui ne veulent pas parler.
Je pense que les gens là que j'avais en tête n'étaient pas les mêmes.
D'accord.
C'est plutôt nous.
Oui.
C'est plutôt nous qui sommes d'abord de simples individus empirés qui... On est peut-être motivé par l'idée d'entente, mais on n'a pas la capacité de se faire convaincre uniquement par des arguments purement rationnels. Et donc là, le discours narratif est intéressant, mais on a quand même effectivement une volonté d'entente. Avec le violent en tant que tel.
Oui.
Avec le violent en tant que tel, on n'est pas sur le champ de la raison, et à la violence, il y a un moment donné où il n'y a que aussi un discours potentiellement parfois de violence aussi qui peut s'opposer. Mais c'est là que le premier élément de l'intervention a quand même un éclairage. C'est aussi parce qu'on est incapable de rendre compte de l'enjeu éthique dans sa prétention universalisante que l'on crée un mode de discussion, un mode de relation qui ne peut pas être de l'ordre de la discussion. Parce que dans le cadre de l'éthique de la discussion, on ne peut pas entendre dans l'enjeu axiomatien, on ne peut pas entendre dans les discours axiologiques comme ayant une prétention à l'universalité. Et donc, on les a exclus du champ de la discussion dans leur prétention universalisante. Du coup, on les a envoyés dans le champ de la violence. Mais, je vous accorde, c'est pas... si on est au stade de la violence, c'est pas avec un discours motivationnel, religieux, qu'on va parvenir à motiver les gens à être dans l'entente.
C'est même paradoxal, je veux dire, d'adosser le remède au religieux, qui est précisément un des points qui... fait exploser au sens propre comme au sens figuré l'entente. Donc il y a quelque chose de paradoxal.
Continuons.
Oui, Christine.
Je pense que ma question rejoint un peu celle que vous venez de poser aussi, mais elle est certainement plus naïve. Et je me demandais, de manière naïve, c'est savoir dans quelle mesure, en fait, une thèse qui pourrait être considérée comme hypothétique est falsifiée par les problèmes que vous avez évoqués. Donc si on considère la thèse, s'il y a un certain accord, à ce moment-là, un accord, une volonté d'accord, à ce moment-là, on pourrait construire une éthique selon le modèle Habermas.
Ou autre, hein, c'est pas...
Donc une thèse hypothétique, elle n'est pas falsifiée par le fait qu'il n'y a pas d'accord. Donc la question à laquelle vous cherchez... la réponse est intéressante, mais elle est un petit peu différente, peut-être, si on présente quelque chose de cette manière-là.
Le problème, c'est quand même de... Le problème que je re-soulève, c'est le problème de savoir ce qu'on fait quand les conditions de l'accord ne sont pas créées.
Oui,
c'est... Alors, il n'y a pas...
C'est ça.
On ne peut pas répondre par la violence. On ne peut pas se contenter de dire il y a rapport de force et il faut gérer les rapports de force qui s'instaurent. C'est un modèle de guerre que nous ne pouvons pas défendre, notamment en interne, notamment dans les sociétés qui sont en train de se dépacifier. Nous avons des indices de dépacification. Alors, on a parlé de contraintes hier sur certains points. Je ne vois pas bien, si vous voulez, comment on reconstruit, comment on réamorce une logique de communication et une logique d'échange quand elle est prisée à ce point, notamment en interne.
Mon point, c'est simplement que la question que vous posez est bonne, mais rien de ce que vous dites falsifie vraiment une thèse qui est considérée comme hypothétique, en présentant les choses sous la forme que j'ai suggérée, c'est-à-dire s'il y a une volonté d'accord ou bien...
Oui, d'accord, Sylviane. Oui, mais l'optimisme des années 80 disait plus que ça, parce que il consistait à dire, en récusant la demande de Karl Otto Appel, qui était « faut produire une... procéder à une fondation ultime de l'éthique ». Quand Habermas assumait ce geste, qui m'a toujours troublé d'ailleurs, pas de fondation ultime, ça voulait dire pas de fondation ultime parce que nous vivons dans un monde social vécu où nous avons assez de choses en commun pour qu'on puisse précisément faire l'hypothèse et partir sur la base de cette hypothèse. Alors, ce geste-là, cette référence à un monde social commun vécu, nous avons hérité des mêmes référents normatifs qui plus est en se laïcisant, en se désenchantant, se partage d'autant mieux, cette hypothèse-là est en train de voler en éclats. Donc si vous voulez, c'est là que à mon avis la difficulté. C'est pour ça qu'il part à la recherche de moyens de densifier l'accord. Et il va, pour moi, de façon absurde, le chercher dans les religions. Là où il ne le trouvera pas.
Oui.
Il ne peut pas y avoir d'accord sur une conception du bien, il ne peut pas y avoir d'accord sur une religion, mais est-ce que les théories de la justice offriraient une troisième voie?
C'est ce qu'elles ont entendu faire, nous les avons tous en tête. Je veux dire, là, on est un peu en aval par rapport à ça, c'est que on peut avoir un peu le sentiment que les théories de la justice, alors en tout cas celles qui ont fait fond sur l'idée de consensus par recoupement, comme l'éthique de la discussion en faisant fond sur l'accord produit autour de la recherche du meilleur argument, présuppose une entente qui ne va pas de soi. Si on prend le versant théorie de la justice et l'idée de consensus par recoupement, qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas sortir de la diversité ou de la pluralité précisément un consensus.
Dominique,
vous avez évoqué Rawls et Habermas. Faisons entrer un troisième larron. Faisons entrer par exemple les tentatives de Charles Taylor.
Oui,
c'est
pas
le
bien,
mais dont on peut vous mentionner aussi dans votre texte. Parce qu'au fond, peut-être que la réponse de Thiel à vos inquiétudes, ce serait de dire, mais il faut dégager certaines expressions du fait religieux, des religions elles-mêmes, et justement forcer, si je pense notamment à ces sociétés qui sont en voie de dépacification, comme vous dites, à l'interne, et faire en sorte que nous entrions en dialogue les uns avec les autres sur cet arrière-plan religieux chez nous, plus ou moins pas très bien sécularisé, et sur ces religions qui viennent... qui prennent une place plus importante dans nos sociétés pour peut-être constituer ou tenter d'élaborer ou de commencer à tisser ce monde commun et à distinguer entre cette question, enfin, ça et la violence qui est quand même toujours le fait de minorité et où là il y a comme le disait le premier intervenant, il y a d'autres facteurs en jeu qui doivent également être confrontés. Pourquoi est-ce que ça, ce ne serait pas aussi une voie possible pour éviter de poser le problème en termes tellement dramatiques qui semblent évidemment désespérants à ce jour?
Je vous réponds en toute sincérité, évidemment, parce que j'ai mentionné la position de Taylor comme une position de réserve à un certain moment, en disant que je ne l'aborderai pas et je ne vais pas l'aborder. C'est simplement que j'ai encore beaucoup de mal, si vous voulez, alors à ce moment-là, à faire le pas qui nous reconduit du procédural vers une dimension de substantialité qui me paraît charrié par la position défendue par Taylor. Donc là, j'ai du mal. Donc je travaille ici avec les types d'éthique, allusivement consensus par recoupement et thématiquement éthique de la discussion, qui sont compatibles avec ma conviction selon laquelle la modernité au plan éthique, c'est la procéduralisation et la désubstantialisation des contenus normatifs. Alors ça, je ne peux pas le justifier. Mais s'il fallait aller jusque-là pour échapper à la difficulté que à la demande qui a été formulée, je me suis infligé à moi-même en choisissant cette question-là, je serais d'abord extrêmement surpris, sidéré, et je trouve que ce serait néanmoins ruineux. Parce qu'il faudrait réassumer, pas entre nous, mais avec sincérité, il faudrait réassumer l'idée, par exemple, de malaise de la modernité, etc. Hein? Ce que j'ai quand même du mal à... Je ne suis pas de ce côté-là.